now.
Attention, vous êtes sur écoute. Attention, vous êtes sur écoute.
Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 30 décembre et vous êtes bien sur écoute pour cette deuxième semaine de spécial vacances de Noël. Salut Nicolas.
Salut Cyril, bonjour à tous. Effectivement, cette semaine, on continue à vous proposer les meilleurs sujets de notre émission sur écoute. Et on commence, Cyril, cette émission du 30 décembre avec Léonard qui proposait de revenir sur une de ces associations qui organise des expositions chez l'habitant. C'est assez... Bah, on l'écoute et puis il nous dira...
C'est assez atypique, on aime bien, c'est sympa. Puis Léonard, qu'on connaît bien quand même hein, sur les ondes, hein, il est notamment aux manettes de Memento, au détour du Nassau, et de Léon aux platines, donc voilà.
Attention, vous êtes sur écoute.
Un petit peu répit, mais ça va être bien.
Salut.
Oh, et les autres, ils disent pas bonjour.
Si, bonjour, bonjour Léonard.
Bonjour, bonjour s'il vous plaît. Alors, donc, co-président de l'association Urticaes. Donc, il va nous parler de son association Urticaes et de Riposte, qui a lieu demain pour sa 8e édition.
Voilà, ouais, demain donc à 19h, de 19h à 23h au 39 boulevard de Chézy. Alors Riposte, qu'est-ce que c'est ? C'est une exposition éphémère dans un appartement, c'est une exposition alternative puisque nous ce qu'on fait c'est plus ou moins du commissariat alternatif ou amateur.
Du commissariat alternatif ?
Commissariat, pas dans le sens où on va fliquer mais dans le sens où en fait on expose des travaux d'artistes étudiants, émergents ou même confirmés, ça arrive parfois. Donc Riposte, qu'est-ce que c'est ? Ça a été initié à Orléans par un élève qui s'était fait lourder en fait des beaux-arts, qui n'avait pas eu la diplomabilité ou un truc dans le genre, et du coup comme un pied de nez un peu pour prendre sa revanche sur le système
un rageux, en fait,
institutionnel,
quoi.
Voilà, ouais, ouais, plutôt. Il est plutôt sympa, hein, je ne voudrais pas trop le tailler. Et donc quand on est arrivé à Rennes, nous on faisait déjà plus ou moins la même chose à Montpellier, donc avec le collectif avant d'être une association. Donc on a rencontré les organisatrices de Riposte et puis comme elles allaient partir, on a repris le réseau.
D'accord.
Donc voilà.
Alors si quelqu'un veut... Ah, t'as une question ?
Oui, alors je voulais savoir comment ça se déroule en fait. C'est, on vient tous chez quelqu'un et...
Bah, c'était ma question.
Ouais, c'est
une belle connexion.
C'est ça, c'est plus ou moins ça. Enfin, nous, on essaie de faire en sorte que l'appartement ne soit pas trop blindé non plus parce que par exemple, celui qu'on va avoir demain, il fait... quelque chose comme 50 mètres carrés, donc ah oui. Ce serait assez compliqué de retenir 200-250 personnes au même moment.
Et pour les voisins surtout.
Puis comme c'est un vernissage et pas vraiment une soirée, les gens rentrent, viennent regarder un peu tout ce qu'il y a et puis ne restent pas non plus toute la nuit. Quoi.
Et au niveau de la gestion des sanitaires, ça se passe comment ?
Alors les sanitaires ne sont pas occupés,
question
les
importante.
Gens peuvent venir,
ah oui. Ouais.
Peuvent utiliser les toilettes et la salle de bain.
D'accord,
ça, on n'expose pas.
Mais pas les chambres, les chambres restent fermées.
Ça dépend. Ah. Ça dépend. Des fois, les chambres, on stocke toutes les affaires dedans. Des fois, on s'en sert pour exposer.
Non, mais j'étais curieux de savoir au niveau de l'organisation.
On revient un peu sur peut-être l'exposition, savoir ce qu'on peut y voir, parce que les sanitaires, c'est bien, on sait qu'ils marchent maintenant. Hein, je pense que tout le monde est rassuré.
Alors, c'est un concept assez original et je me demandais bah, du coup comment on arrivait à faire une exposition chez quelqu'un au final et comment la personne pouvait accepter de
laisser son appartement.
Voilà, et de devenir un lieu d'exposition.
Ouais, donc par rapport à ça, on fait des appels à projets donc, sur Internet où on demande à toutes les personnes. Qui suivent de près ou de loin finalement notre projet, de proposer leurs appartements ou de proposer donc des pièces à exposer. Ensuite, nous, on fait tout un tri, on a une sorte de banque de données de tous les projets qu'on reçoit et on en fait ressortir, émerger quelques-uns quand on arrive à trouver un thème finalement qu'ils peuvent avoir en commun. Donc demain, vous ne saurez pas qui sera exposé, mais vous saurez que le thème, c'est la collecte.
D'accord.
Donc la collecte dans le sens de... ramasser des objets, chiner les vide-greniers, tout ça. Tout
et
ça.
Pourquoi vous ne voulez pas dire qui c'est qui expose demain ?
C'est pas parce que j'aurais peut-être un peu de mal avec les noms de famille de tout et chacun. Donc déjà, pour ne pas la foutre mal, si tu veux, je vais éviter.
D'accord, et donc puis, c'est à cause d'un niveau limité, en fait.
C'est toujours un peu la surprise, quoi.
Parce que vous aussi, vous teasez, au final.
Voilà.
Voilà.
Bon, vous faites pas que ça, Urticaes, pardon. Vous faites pas que ça.
Non,
c'est
non,
quoi
non.
Les autres champs de, enfin, d'autres champs d'action.
Du coup, comme Urticaes, c'est un réseau qui est à Montpellier, à Besançon, qui a déjà fait une édition à Paris et qui est également donc du coup à Rennes et Orléans. On va essayer cette année de recentraliser un peu tout ça et de faire une édition, donc un beau magazine bien relié sur toutes les ripostes qui ont pu avoir lieu jusqu'à présent. Mais nous, donc, avec l'association, en dehors de ça, on fait donc, ce qu'on faisait avant à Montpellier, c'est l'EFPO, comme EFPO Fifion. L'EFPO Fifion, donc, oui, c'est à peu près la même chose que Riposte, sauf que c'est trois appartements, c'est de 22h à 6h du matin, et c'est un grand parcours déambulatoire avec, du coup, beaucoup de performances sur le chemin, des surprises, les inscriptions sont limitées par contre. On s'arrange du coup pour qu'il y ait un nombre de personnes qui puissent coller avec le guide.
Ça va tomber quand ça, les inscriptions, tout ça, les gens vont pouvoir commencer à regarder.
Ce ne sera pas avant avril même, et de toute façon, les gens peuvent nous suivre sur Facebook à la page Association Urticaes ou sur notre Tumblr, pardon, urticaes.tumblr.com.
Et le magazine, c'est pour quand ?
Le magazine, alors ça, c'est un projet d'édition. Le mieux, ce serait que ça puisse se faire à la fin de l'année. Mais
vous avez quelqu'un ou on fait un appel des donateurs éventuels ou,
Ah, ça, du mécénat, vas-y, fais-toi plaisir. Hein, si
quelqu'un cherche un projet d'édition, il y a Riposte qui est prêt à envoyer du lourd visuellement et graphiquement.
Oui, une autre question d'organisation. Si on fait on accueille une exposition chez soi, est-ce qu'on garde un tableau, on garde une œuvre ou...
On n'a jamais réfléchi. À ça, pardon, ça s'est jamais fait jusqu'à présent, mais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant.
Fous la merde, vas-y, je t'en prie.
Ils vont tous demander du bif maintenant. Les gens laissent leur appartement.
Ils laissent leur toilette surtout.
Une petite récompense. Non, généralement, on fait un clean-up intégral avant et après. Ah. Et ça, les gens, ils sont contents.
T'avais une question, Cyrielle ?
Non, c'était juste pour éviter que tout le monde parle en même temps, mais ça tout va bien.
C'est mignon. est-ce que vous comptez aller un peu sur d'autres villes où vous restez, parce que là, il y a Montpellier, il y a Rennes.
Pour l'instant, on est implanté. Nous, notre équipe, en tout cas, est implantée sur Rennes. On n'a pas encore dans l'idée d'aller faire ça ailleurs. Il y a d'autres collectifs, d'autres associations qui font ça, du coup, dans les autres villes, quoi.
Et prochainement, de le faire plus souvent. Là, c'est la 8e édition. Vous voudriez le faire une fois par mois.
On aimerait bien le faire une fois par mois, mais c'est assez compliqué au niveau de l'organisation. On aime bien un peu se reposer aussi juste après une riposte. Donc, c'est une fois tous les mois et demi, deux mois.
C'est quoi le plus dur, trouver les artistes ou les lieux d'exposition ?
Les deux, je dirais. Parce que des artistes, on a plusieurs propositions, mais avant de trouver vraiment une thématique qui puisse émerger de tout et chacun, c'est un peu plus compliqué. Les lieux, c'est une affaire, ça se fait parfois la dernière semaine, comme c'est le cas pour la riposte de demain.
D'accord, bah merci. Merci. Voilà. Non, c'était pas du tout intéressant.
On a vu la manière dont tu le regardais. On t'a sorti ton rêve un petit peu.
Non, mais oui, tout à fait. Non, mais en fait, Léon, de toute façon, on te retrouve tout à l'heure. Hein, on te quitte pas vraiment. Parce que Léon, il fait aussi partie de ce surécoute spécial qui aura lieu de 21h à 2h du matin. Ouais. Là, je parle sous le contrôle d'Adrien qui me regarde.
C'est parfait.
Et donc, on te retrouvera pour la seconde partie de soirée,
c'est ça ? Pour la toute dernière partie, du coup, je ferai un Léon Platine spécial de minuit 45 à 2h du matin pour vous faire danser tous et remuer vos petites fesses.
C'est super.
Ouais. Voilà.
Donc elles ont hâte.
On a tous hâte.
Il y aura beaucoup de fesses.
Dixit Julien.
D'après ce que j'ai compris, il y aurait beaucoup de caleçons aussi. J'ai entendu la lunchbox.
Non, ça, c'est pas encore validé. Ça,
d'accord, ok.
Encore en négociation.
Là, on fait du teasing pur et dur pour la soirée de ce soir. Les auditeurs vont tous s'arracher.
J'espère.
Alors, l'adresse d'Adrien, c'est le.
Avec le Chinese Man, ils vont avoir personne en vrai, quoi.
Et ben, on espère un petit peu quand même, ça nous ferait plaisir. Donc voilà, on se retrouve ce soir. Mais on se retrouve aussi tout de suite après cette musique. Fleetwood Mac, Gold Dust Woman.
Oh yeah.
Oh yeah. Did she make you cry, make you break down, shout?
Attention, vous êtes sur écoute.
Antoine proposait de revenir sur la fête des 100 qui s'est tenue le samedi 15 novembre à l'initiative du Front de Gauche. On l'écoute.
Attention, vous êtes sur écoute.
Camarades, la lutte continue. Les chars ne sont pas encore sur la place de Bretagne, mais ce week-end, donc, les gauchistes étaient au rendez-vous à Carrefour 18. Donc je stigmatise un petit peu, je plaisante, mais donc ce samedi, on avait une grande fête qui était la fête des 100, donc organisée par le parti de gauche et qui était surtout ouverte à tout le monde, qui n'était pas forcément pour les militants de gauche, d'extrême gauche et tout ça, mais qui était donc avec des tables rondes, des discussions donc sur la démocratie locale, la démocratie française et donc l'avenir du capitalisme et pourquoi est-ce qu'on va mal. Donc tout de suite, on va écouter une table ronde que j'ai faite avec Adrien Toussel, donc au sujet des PPP, les partenariats publics-privés. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît pas mal du tout et je pense qu'on peut écouter ce qu'il a à nous dire.
Adrien Toussel, donc je travaille dans le cadre de la commission économie du parti de gauche, notamment sur les PPP. Je m'occupe encore jusqu'au 1er janvier des questions européennes pour le parti de gauche diplomatique, parti de la gauche européenne, tout ça. C'est pour ça que j'ai l'occasion de voir, en fait, de joindre les deux pour, un, voir en Europe la question des PPP, des droits de propriété, des contractualisations qui existent dans d'autres pays européens via des retours d'expérience, et deux, travailler au niveau plus français pour le parti là-dessus. Et enfin, je travaille au CNRS sur des enjeux publics-privés. Donc voilà, j'ai mis tout ça, j'ai fait un peu bouillir tout ça ensemble et ce livre en est sorti. Enfin, je trouve que l'esprit est bien, que ce côté un peu de décloisonnement des mouvements sociaux et des partis est extrêmement intéressant parce que c'est là, à mon avis, qu'on fait les choses les plus riches. Donc je pense que l'idée est bonne, le cadre adopté est bon. Et je suis très heureux d'être là aujourd'hui.
Voilà, il était très heureux et nous aussi on est très heureux de pouvoir discuter avec lui. Donc c'est quelqu'un qui est un auteur, qui a écrit un livre donc, sur ses partenariats publics-privés. Il est militant depuis assez longtemps, il s'est déplacé donc, de Paris pour venir à la fête des 100, qui était la première édition de la fête du parti de gauche et qui n'existe qu'en Ille-et-Vilaine. On a aussi eu donc, une organisatrice qui nous a expliqué pourquoi est-ce que c'est la fête des 100, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle comme ça.
À l'origine, ça vient de l'agression de notre ancien local. On avait un local départemental à Rennes et il a été agressé à 2 semaines d'intervalle. Et on s'est dit qu'on voulait répondre à ça. Alors, on ne voulait pas s'amuser nous-mêmes ensuite à taguer le local d'un parti d'extrême droite, mais on voulait répondre à ça de manière constructive. On s'est dit on va faire des tables rondes, on va inviter des artistes, inviter des associations, des collectifs. Enfin, c'est de là que vient donc, l'idée de la fête des 100. Et le nom, en fait, c'est venu... c'est vrai que on cherchait un nom pour la fête, on voulait pas l'appeler fête du parti de gauche d'Ille-et-Vilaine et François Hollande donc appelait les plus démunis de France les sans-dents et on s'est dit voilà il y a quelque chose là les sans, c'est vrai que les sans il y en a tout le temps, pas que des sans-dents mais des sans-emploi, des sans-papiers.
Voilà, eux, ils n'étaient pas sans amis, il y avait pas mal de monde qui est venu, il y avait un super concert, ça a duré de 14h à minuit, donc beaucoup de monde est passé, et surtout, ils avaient invité pas mal d'associations qui étaient venues présenter, des associations qui ne sont pas forcément politiques, donc il y avait par exemple Amitié Turque, des associations autour de la Palestine et d'Israël. Voilà, donc c'est vraiment tous ces gens qui étaient là donc pour célébrer en fait l'amitié et qui faisaient un peu une fête pour dire non à la violence, parce que comme vous avez entendu, ils se sont fait un peu attaquer donc par des groupuscules d'extrême droite a priori. Et enfin, il y a Alain Guillard qui est le co-secrétaire du parti de gauche qui m'a un petit peu discuté de sa vision en fait de la politique française et d'Ille-et-Vilaine. Donc voilà, je pense qu'on peut l'entendre.
En expliquant ce qui se passe, et notamment aujourd'hui, que cette austérité, qui est la même que celle qu'on nous a vendue il y a 30 ans, prépare finalement un autre monde, et un monde qui n'est pas des plus réjouissants, que la crise financière que l'on a aujourd'hui a été préparée dans les années 80 par la libéralisation de la finance, organisée d'abord par des Français en Europe, je citerai Delors par exemple, eh bien, ce qu'on nous prépare avec la casse de la sécurité sociale par exemple, c'est des lendemains qui ne chantent pas pour dans une dizaine d'années.
Voilà, donc on avait vraiment des discussions avec d'anciens militants, des gens qui sont devenus militants très récemment, et donc c'était très intéressant d'avoir ces tables rondes sur plein de thèmes différents, l'écologie, la déchetterie, et donc moi j'ai surtout participé au partenariat public-privé, parce que je trouvais ça assez intéressant de rencontrer justement ces personnes. Et voilà, donc ça va être annuel, ça va être chaque année, et c'est vraiment une occasion intéressante de se politiser sans forcément s'encarter dans un parti qui est très pluraliste, donc assez intéressant, voilà.
Merci Antoine pour ce reportage. Et de toute façon, on te retrouve un peu plus tard en fin d'émission pour ton billet doux hebdomadaire. Mais tout de suite, on écoute le morceau qui a fait un peu sensation cette semaine. C'est Stromae à la musique avec Lorde aux lyrics, Pusha T, les rappeurs Q-Tip et les rockeuses de AIM. Meltdown sur Radio Campus Rennes tout de suite. Life is like a costume party. Just cover the flaws in Cavalli. Let's hide the hurt in a Molly. We all trying to be somebody else. You can't hide your tears and wealth when your heart knows you hate yourself. It's all pain we felt, just the way that the cards been dealt.
Surprising that we're here with no fear and give an uprising. Gonna blend in with the bullies and the bureaucrats. Arrows pierce like lightning, chopper sound like thunderclap. Ooh, never will you stand, we gon' lay you down. Debonair and dapper kids coming in to take the town. Try to restrain us, even though you trained us, we're better than you are. Now we gonna make you famous. Crystal sent over on gratis. Can't pretend we're not plastic when these poker faces take practice. Who to trust, who to love, who to run from, who to hug. Set fire to a government of thugs. Respect only comes from the money or your blood.
We're out of sight, shadows and light. They're closing in and I know where we're going. But I don't know.
Attention, vous êtes sur écoute.
On en entend peu parler, mais les pharmaciens cette année ont manifesté et ont montré leur désaccord contre la volonté du gouvernement de libéraliser la vente de médicaments, notamment en grande surface.
C'était Adrien qui était venu nous parler du sujet après avoir rencontré une pharmacienne dans son officine. C'était le 4 novembre dernier et on vous laisse l'écouter tout de suite.
Attention, vous êtes sur écoute.
Eh bien oui, ils sont en colère, ils font signer des pétitions, ils menacent de faire grève, ils sont... Non, personne n'aurait trop dur. Les pharmaciens, bien sûr. Et oui, la réforme du gouvernement, à leur égard, ne passe pas. Mais qui se sent concerné? Qui est prêt à descendre dans la rue auprès des pharmaciens? Vous prendriez-vous un coup de flashball dans la mâchoire pour défendre les droits des officines? Je vois que personne ne bouge la tête. Eh ben moi, je me suis dit que non aussi. Et puis, j'ai dû aller chez mon médecin. Innocemment, je lui demande ce qu'il en pense du fait que les grandes surfaces se mettent à vendre des médicaments.
En soi, c'est une ineptie puisqu'il faut un professionnel pouvant distribuer les médicaments génériques ou non. Il y a une notion de professionnalisme, une notion d'étude. Si on donne les médicaments, si les médicaments sont en vente libre, évidemment, ça fera baisser le prix, mais simplement, il n'y aura plus du tout de conseil. Il n'y aura plus de contrôle. Il suffit de voir comment ça se passe en Suède, où ils ont essayé seulement de dérembourser, déréglementer, je crois, pour le Doliprane ou les Feralgan.
Plus de conseils, des gens mal préparés qui nous vendent des Doliprane, ça vous fait peur, vous ? Eh ben, bah moi non plus. Justement, écoutez ce qu'il s'est passé en Suède.
Il y a eu 16 000 cas d'hospitalisation à prendre en charge directement lié à ce problème-là. Je ne sais plus combien de morts, mais là, ils sont en train de faire marche arrière.
Et boum, 16 000 hospitalisations, des morts et tout ça à cause des Doliprane. Je suis sorti de chez mon médecin un peu effrayé. Bon, on est d'accord, cette loi, c'est pas le Ebola, mais il peut quand même y avoir des dégâts. Pour me rassurer, je suis allé demander à des passants ce qu'ils en pensent. Comme toujours, il y a plusieurs cas.
Tu préfères aller en pharmacie ou en centre commercial, si t'as le choix ?
En pharmacie.
Et pourquoi ? T'as plus confiance ?
Oui, et puis enfin, c'est leur vrai métier à eux, quoi, aux pharmaciens, plutôt qu'aux grandes distributions, trucs comme ça.
Mais alors pourquoi tu penses que la pharmacie c'est mieux, toi, là ?
Parce que même s'il y a des pharmaciens polyvalents chez Leclerc, je sais pas s'il y a beaucoup de clients, ils auront pas le temps de s'occuper forcément de tout le monde, et je préfère aller en pharmacie, au moins tout le monde est compétent.
C'est vrai que si on te donne du Prozac, Doliprane, c'est pas top, quoi.
Ouais, non, pas terrible, non.
Bon, eux, ils sont pro-pharmacie. Bien sûr, il y a les personnes prêtes à aller chez Leclerc chercher ces médicaments.
Est-ce que toi, t'irais acheter des médicaments chez Leclerc, par exemple, des Doliprane et tout, ça te fait pas peur ?
Non, ça me fait pas peur, du tout.
T'aurais pas peur d'être mal conseillé ?
Bah non, pour les médicaments qu'on prend tout le temps, non, pas du tout.
Et si je te dis qu'en Suède, il y a eu 16 000 blessés et des morts à cause de ça, du coup, ça te fait réfléchir ou tu vas continuer à aller au centre commercial s'il y a possibilité ?
Bah, je vais peut-être aller en pharmacie, peut-être. C'est mieux.
Ah, ce bon vieux levier de la peur. D'autres ne se laissent pas impressionner et sont plus pragmatiques.
Et si je vous dis qu'en Suède, ils ont passé une loi pareille et qu'il y a eu des accidents parce que les gens ils prenaient trop de Doliprane, par exemple.
Ah ben ça, le Doliprane, moi j'en prends quand vraiment j'ai besoin. Écoute, on est quand même des gens intelligents. On sait quand on a mal, on prend quelque chose. Moi, hier soir, j'étais pas bien, j'avais mal au dos et tout ça. J'ai pris un petit truc et j'ai très bien dormi.
Et bim, les Suédois, elle a bien dormi. Et comme toujours, pour certains, eh bien la vie, elle est plus simple.
Vous allez acheter des médicaments au supermarché ?
J'ai d'excellentes défenses immunitaires, donc j'y vais jamais.
Trop facile.
Voilà. Pour ceux qui se posent la question, je me suis renseigné sur le cas suédois. Et il est vrai que d'ici mars 2015, le paracétamol ne sera plus distribué hors officine. Bon, c'est le moment de faire le point. J'ai l'avis de mon médecin, j'ai l'avis de parfaits inconnus, et il ne me manque plus que l'avis de ma pharmacienne. Ça tombe bien, je devais y aller.
La notion du médicament en grande surface, si on parle vraiment du médicament, pas du dentifrice ou du shampoing ou ce genre de choses, c'est toujours présenté pour améliorer le pouvoir d'achat des gens. Si c'est la vraie raison, je pense qu'elle est mauvaise et erronée. Dans la plupart des pays qui ont mis le médicament en grande surface, il y a toujours eu un effet un peu dumping au début, où on a vraiment baissé les prix. Une fois qu'ils ont ramassé la totalité, entre guillemets, enfin, même si je caricature, de la totalité du produit, les prix remontent et finalement le pouvoir d'achat des gens est rarement conservé.
Eh bien oui, c'est là que ça se corse, mon petit Bonaparte. Ce qu'elle craint ici, c'est qu'une fois que les gens auront pris l'habitude d'acheter leurs médicaments dans les grandes surfaces, une fois que les pharmacies auront disparu, eh bien les grandes surfaces augmentent à nouveau leur marge sur ces produits.
Il y a pas mal d'exemples. Il y a eu la baguette qui était vendue à moins d'un franc à une époque. Aujourd'hui, elle est au même prix que chez votre boulanger. Il y a quelques mois, les grandes surfaces ont eu le droit au test de grossesse. Il est aujourd'hui en moyenne, quand on regarde sur les sites d'achat, entre 2 et 5 euros. Moi, mon test de grossesse est toujours à 1,49 euros en officine. En Italie, ils ont passé tout le médicament en grande surface. Dans un premier temps, les prix ont baissé. Aujourd'hui, tous les médicaments en vente conseil en Italie sont 30% plus chers que la moyenne des médicaments français. Aujourd'hui, en France, il y a une véritable concurrence entre les pharmacies. Donc, je ne vois pas en quoi on peut parler de lobbying ou de rente ou autre. Les médicaments en conseil en France sont les moins chers d'Europe, mis à part le Royaume-Uni à 2% près. Donc tout ça pour dire que concernant pour moi le pouvoir d'achat des gens, je ne vois pas comment à long terme ils seront bénéficiaires.
Au-delà de ça, c'est toute une logique, un système qui est remis en cause. La loi du chiffre doit-elle régner ?
Après, y a toujours, moi ce qui m'inquiète toujours le plus, c'est cette notion aussi de de compétences, de diplômes. Je trouve qu'on nivelle par le bas. C'est qu'aujourd'hui, aller dire à un étudiant de passer un concours, de travailler 6 ans, de bosser une thèse, de prouver un savoir-faire, pour qu'au final, il n'y ait plus que le pouvoir financier, le pouvoir des lobbying, l'ouverture du capital à n'importe qui ayant de l'argent. Voilà, je trouve que ça nivelle vers le bas le niveau d'études, aujourd'hui, la motivation.
Bon, je lui ai quand même rappelé que ce seraient des pharmaciens qui devraient être engagés pour vendre des médicaments, même dans les grandes surfaces, mais elle ne l'avait pas oublié.
C'est toujours ce qui est avancé, c'est que oui, ce seront des pharmaciens qui vendront le médicament en grande surface. Ce sera sous couvert et sous au contrôle, voilà, merci, du pharmacien. Après, on ne se voile pas la face. Hein, dans les contrats qui sont déjà proposés aux pharmaciens en grande surface concernant la para, le pharmacien, sur son temps libre, doit être polyvalent. Aussi bien un jour, il ira à la boucherie dépanner et remplir les packs d'eau. Alors, peut-être que l'inverse peut être vrai aussi.
Hé hey Martin, quand t'auras fini avec les crevettes, je veux bien que tu viennes servir madame en gaviscon. Ouais, c'est vrai que ça ferait un peu bizarre. Bon, le débat est sans fin et c'est vrai que la question peut sembler difficile. Pour en avoir parlé avec plusieurs acteurs, on s'aperçoit que ce qui revient au centre de la discussion, plus que les intérêts économiques de chacun, c'est la question des commerces de proximité. Une grande partie de ces commerces ont été petit à petit avalés par la grande distribution. Boucherie, maison de presse, boulangerie, poissonnerie et j'en passe. Les pharmaciens revendiquent leur bout de gras comme d'autres professions. Au-delà du pragmatisme économique, c'est finalement l'idée que l'on se fait de l'organisation de notre société qui se pose.
Merci Adrien, mais c'est vrai que tu as beaucoup évoqué Leclerc, c'est parce qu'il y a eu une
oui,
pub très...
Il y avait ça, et puis Édouard Leclerc s'est beaucoup exprimé sur les ondes ou à la télé, bon la télé je sais pas, mais sur les ondes en tout cas j'ai entendu, sur le sujet, et il est pas mal pris en grippe par les pharmacies, parce que dans ses galeries il a déjà des pharmacies qui sont là, qui sont dans les galeries en fait, donc c'est, à chaque fois il prend un petit peu plus et eux ça les énerve. Après on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est une vision, c'est leur vision eux que j'ai présentée. Libre à chacun de se faire son lit.
Attention, vous êtes sur écoute.
Alors, on vous en a déjà proposé un la semaine dernière, juste avant Noël, mais on est reparti avec Julien pour son micro-trottoir musical. Donc, le principe est simple, hein, Nicolas.
Oui, c'est Julien qui va dans la rue, qui va à la rencontre des auditeurs de Radio Campus Rennes. Il leur propose de faire écouter un extrait de musique, ou une musique dans son entier.
Une musique, c'est une musique en entier,
Il leur propose de faire écouter une musique et on écoute la réaction des passants.
Attention, vous êtes sur écoute.
Oui, c'est tout bête. Je suis allé voir comment. J'ai aperçu une dame qui regardait les jouets derrière la vitrine d'un magasin. Un nom que je ne citerai pas. Et puis, j'ai demandé si elle avait envie d'écouter de la musique.
Madame, bonjour madame, excusez-moi. Est-ce que je peux vous déranger? Je m'appelle Julien, c'est pour Radio Campus. J'aurais quelques questions à vous poser.
C'est-à-dire, j'ai pas tellement le temps parce que j'ai à peine une demi-heure.
Dans une demi-heure? Ah, ça tombe bien, parce que alors, j'ai un truc un peu particulier à vous demander. Alors, j'aimerais vous faire écouter de la musique. Est-ce que vous aimez la musique?
Bien sûr, j'aime la musique, oui.
Ça vous dirait d'en écouter?
Pas pour le moment, j'ai pas encore le temps, puis...
5 minutes.
Alors, qu'est-ce que vous voulez me demander, alors? C'est ça, j'ai au moins presque 210 disques à la maison.
Et de quoi?
J'ai de tout, des valses viennoises, enfin... Des trucs de mon âge. J'ai même de Dorothée, tout ça, quand elle était petite. J'ai une nièce qui travaille à Paris dans une maison là où est Johnny Hallyday et qui m'envoie tous les ans des disques. Bon, ce sont des anciens disques, quoi. Hein. Mais bon, apparemment, j'écoute. Et puis mes petits-enfants, quand ils viennent, ils sont contents d'écouter aussi. Ouais.
Même de la musique classique?
Oui, de la musique classique. J'ai de tout. J'ai... l'allemand là qui chante si bien, je sais plus comment il s'appelle, parce que j'ai des trous de mémoire, je viens de perdre mon mari, alors je suis complètement paumée là depuis quelques temps, mais oui, j'aime beaucoup la musique. Ouais.
Ça vous dit quelque chose?
Non, je connais pas.
C'est une chanson qu'on entend dans le film Breakfast, Petit Déjeuner chez Tiffany.
Je ne regarde jamais les films, je ne regarde que les reportages.
Que les reportages?
Sur les arnaques, sur la police et tout ça. Oh non, hier soir, c'est comme hier soir, il n'y avait rien de bien à la télé. Hein. Oh, ici, je demande nous, hein. Franchement. Alors, j'ai bricolé, quoi, par là. Je prends le tricot, je prends la broderie, ça m'occupe.
Et en écoutant la radio, peut-être?
Ah oui, pas très souvent. Hein. Vous savez, depuis que j'ai perdu mon mari, il est mort de la maladie de Parkinson. Il était en maison de retraite à Verne. Et je suis restée pendant 2 ans et demi toute seule.
Si je vous ai arrêté un moment, c'est parce que je vous ai vu regarder les jouets.
Oui, mais attendez, vous savez quel âge ils ont, mes petits-enfants?
J'en ai 8.
Hein, l'aînée, elle a 29 ans. Alors, c'est vous dire. Hein. Et la dernière, elle a 12 ans.
De 12 à 29 ans, on peut quand même avoir envie de jouer, même à 29 ans.
Non, mais comme je suis passée devant, j'ai dit tiens, il faudrait que j'aille faire un tour ben là. Ça fait longtemps que j'y suis allée, alors donc, comme je n'ai pas eu l'occasion d'acheter des jouets, rien du tout maintenant, je leur donne l'argent et comme ça, ils achètent ce qu'ils veulent. Au moins, ils seront contents.
Vous appréciez encore Noël quand même?
Ben oui, bien sûr. Ouais, je vais chez mes enfants, hein. Ouais. Là, je vais chez ma belle-fille à Noël et puis le lendemain, ben, j'irai chez ma fille à Berne. Alors, vous voyez. Et puis, bon, ben, j'ai un fils aussi, à Crévin. Et donc, je suis partagée, quoi, hein, voilà. Ah ben maintenant, on me laisse pas toute seule, hein, heureusement. Hein.
L'important, c'est, je crois, c'est d'être réunis.
Sûrement, oui, sûrement, oui.
Bonne journée, madame. Au revoir.
Donc voilà, bah, je remercie cette dame de m'avoir gentiment parlé. Et, comme j'avais dit en début d'émission, j'ai été pris d'un souci technique, c'est-à-dire qu'à la fin, mon matériel d'enregistrement n'a pas voulu enregistrer correctement la dernière minute. Et donc, elle m'avait confié que la radio l'avait beaucoup aidé à surmonter le décès de son mari qui était intervenu en septembre dernier. Et pour parler de la musique du film... la musique du film. Donc, pour parler du film dont est extraite la musique, Déjeuner chez Tiffany avec donc l'actrice Audrey Byrne que vous connaissez
bien
certainement.
Sûr.
Voilà, m'avait dit
la fameuse scène où elle chante.
C'est ça. Oui. Oui. Elle m'avait dit qu'elle aimait beaucoup quand même si elle n'avait pas vu le film, qu'elle aimait beaucoup Audrey Byrne. Voilà, on souhaite un joyeux Noël à Audrey Byrne.
Oui, on souhaite un joyeux Noël à Audrey Byrne.
Pourquoi pas.
Où qu'elle soit.
Au monde entier.
Et merci beaucoup, Julien. Moi, je trouvais que c'était très Noël, c'était très émouvant.
Oh, merci.
Merci à toi.
Attention, vous êtes sur écoute.
Voilà, c'est déjà la fin de cette émission spéciale du mardi 30 décembre. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. En tout cas, moi, j'étais ravie d'être avec toi, Nicolas.
J'étais très content de finir l'année avec vous, puisque demain, je tiens à préciser, ça sera le dernier jour de 2014.
Et oui, on se retrouvera avec une programmation très éclectique et très sympa. Donc, on vous attend, on compte sur vous. Bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Rennes. Au revoir.
Au revoir.
I know a bloke. Who knows a bloke? Who knows a bloke? Now you know this bloke. This is a bloke you know.